Merci de votre fidélité au programme du studio Kalungu. Bienvenue dans l'émission Espace Femmes qui traite des questions qui concernent les femmes. Espace Femmes est diffusé à travers le réseau de 52 radios partenaires dans toutes les régions du Niger. L'émission de ce soir tourne autour du femme et prédisposition au cancer. Comment s'y prendre? Selon les spécialistes, 5% des cancers sont héréditaires, ce qui signifie que la personne possède dès la naissance dans le patrimoine génétique hérité de ses parents une altération d'un ou de plusieurs gènes qui la prédispose à la maladie. De ce fait, la personne a une probabilité de développer un cancer au cours de sa vie. Alors, comment savoir si on est porteur du gène du cancer? Quels sont les cancers qui sont héréditaires? Comment se transmet le cancer? Est-ce que le cancer peut vraiment être génétique? Comment éviter le cancer? Avec nos invités, nous allons tenter de trouver des réponses à toutes ces questions et à bien d'autres qui seront posées au cours de cette émission. Pour ce faire, nous accueillons dans ce studio Dr Amadou Soumeila, chirurgien cancérologue à l'hôpital national de Niamey, Madame Issoufou Rahila, une assistante administrative, et de Madame Hajia Fatih Ali, présidente de l'Association des femmes qui souffrent du cancer au Niger. Merci à vous, chers invités, pour votre présence à cette émission. Je suis Rafika Taher pour la modération. Voilà, nous allons commencer avec vous, docteur. Faites-nous la situation actuelle du cancer au Niger.
Merci, Madame Rafika. Donc, la situation du cancer au Niger, est, selon donc, les chiffres de 2020, il a été dénombré à peu près 10 000 nouveaux cas de cancer en 2020. Et parmi ces cancers, le cancer du sein occupe la première place environ avec 2 000 nouveaux cas. Suit le cancer du foie, puis les cancers colorectaux, les cancers du côlon et du rectum, et des cancers du col de l'utérus, selon donc les études donc Globocan 2020. Bien d'autres, il y a le cancer donc maintenant en fonction des sexes. Nous avons donc, comme je l'ai dit, chez la femme, c'est le cancer donc du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer donc de l'ovaire.
Ce sont ces cancers qui sont les plus fréquents.
Les plus fréquents. D'accord. Chez les hommes, c'est surtout le cancer de la prostate, mais également le cancer du foie. Voilà, de manière à ramasser un peu la situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres ne reflètent pas trop la réalité, parce que ce sont des chiffres qu'on a au niveau des centres urbains, alors que ça ne se limite pas seulement donc à la capitale, aux centres urbains. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à l'hôpital, qui n'arrivent même pas dans les centres urbains pour être comptabilisés. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment au-dessus, en tout cas selon ce que nous voyons, c'est au-delà donc des chiffres qu'on annonce.
D'accord, voilà. Docteur. Dites-nous, qu'est-ce que ça signifie être prédisposé au cancer?
Être prédisposé au cancer veut dire, par définition, on appelle cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules de l'individu qui vont acquérir certaines propriétés, notamment d'envahissement d'autres organes. Donc, c'est une maladie donc, génétique. Être prédisposé au cancer veut dire être porteur des gènes mutés qui peuvent être responsables de cancer chez un individu.
Même si on n'a pas de parents qui ont déjà eu la maladie, on peut être porteur du gène.
Il faut nuancer. On peut hériter des gènes mutés d'un parent. Mais également, ces altérations génétiques peuvent être dues aussi à plusieurs facteurs. On peut ne pas hériter de ses parents, mais sous l'influence de facteurs, notamment donc les radiations, peut entraîner donc des altérations génétiques. Les infections peuvent entraîner des altérations génétiques. L'ensoleillement dans nos pays peut entraîner des altérations génétiques. Mais je le dis tout de suite que ce n'est pas forcément qu'on importe ces altérations qu'on développe le cancer.
D'accord, parce que beaucoup pensent que quand on dit être prédisposé au cancer, c'est qu'il faut forcément avoir un parent qui a déjà cette maladie ou bien qui est porteur peut-être de la maladie.
Ça ne veut pas dire que forcément avoir un parent.
D'accord, c'est
bien. Mais il y a des phénomènes qui peuvent entraîner une altération génétique.
Quel est le niveau de cette prédisposition chez les femmes?
on ne saurait dire qu'il y a un niveau donc, de prédisposition, mais il y a certaines pathologies, il y a certains types de cancers. On peut dire que sont donc il y a des prédispositions, notamment donc comme je l'ai dit en tête de liste, le cancer donc du sein, le cancer de l'ovaire. Il y a des gènes responsables de ces cancers. Mais parlant donc du cancer du col de l'utérus, on sait que ça c'est lié à un virus qu'on appelle le papillomavirus. Et ce virus entraîne une altération des gènes responsables du cancer du col de l'utérus.
D'accord. On vient vers vous, Hajia Fati. Vous avez été malade du cancer. Tout d'abord, est-ce que vous avez un parent qui a été malade du cancer?
Salam alaikum. Mon cancer, je l'ai hérité. Ma propre maman a été victime de ça. Au même âge, quand j'avais les 44-45 ans là, mon cancer est là.
Ça s'est déclenché.
Ça s'est déclenché.
D'accord.
Oui.
Quand vous l'avez appris, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle?
Vous savez, le cancer, dès qu'on dit que la personne est atteinte du cancer, là, c'est la mort seulement. Donc, toute la famille est venue en train de pleurer, de faire ceci. Ils m'ont dit de ne pas aller à l'hôpital parce qu'on va amputer mon sein. Et si on enlève le sein, que je vais mourir. Vous voyez? Donc, j'ai dit à tout le monde de prier seulement pour moi. Je ne peux rien. Et si Dieu fait que c'est le moment qui est venu, je ne peux rien.
Aujourd'hui, ça fait combien de
temps? Ça fait 21 ans de cela.
Que vous avez la maladie?
Oui.
Que j'avais eu
la maladie. D'accord. Mais je suis guérie maintenant. Je suis en bonne santé.
D'accord. Oui. Madame Hajia vient de dire que quand elle a appris la maladie, les gens se sont alarmés qu'elle va mourir, tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire aux malades qui souffrent de cette maladie? Est-ce que c'est vraiment une maladie, quand on l'a, c'est vraiment la fin ou bien on peut s'en sortir?
Effectivement, comme elle a dit, beaucoup de nos malades, dès qu'on annonce donc le cancer, pour eux, ça rime avec le décès. Mais on essaie de les faire comprendre que ce n'est pas vrai. On leur donne beaucoup donc, d'exemples que cancer ne veut pas dire la mort. Et moi, de mon propre expérience, chaque fois je le dis, écoute, moi, je suis chirurgien, je suis cancérologue. Si cancer veut dire moi, je vais pas aller me spécialiser donc dans une spécialité où je vais pas donc sauver donc les malades. Mm-hmm. Donc c'est parce que je sais que le cancer ne veut pas dire la mort, parce que c'est que le cancer il est curable. On peut guérir le cancer. À défaut de guérir le cancer, on peut faire en sorte qu'on vive avec la maladie. C'est ce que je leur dis.
Être prédisposé au cancer et ne pas être prédisposé, quel est le degré de dangerosité de ces deux formes?
Bien sûr, ceux qui sont prédisposés au cancer. Quand on a des facteurs de risque plus prédisposés au cancer, on a plus donc de marge de développer donc des formes graves de la maladie que ceux qui ne sont pas prédisposés.
D'accord. C'est clair. Et quel est le niveau héréditaire du cancer?
Parce que en termes donc de prédisposition, nous on parle donc de degré. On demande à la famille, est-ce que c'est le propre parent, en fait, le parent direct, c'est-à-dire soit la mère ou bien le père qui a fait donc le cancer, ou bien si c'est la sœur, ou bien si c'est la tante. Ça, on les appelle donc des antécédents à degrés différents. Si c'est les propres parents, ce sont donc des prédispositions au premier degré. Mais si c'est une tante ou bien la sœur donc du père, vous comprenez, ou bien donc de la grand-mère, ça, ce sont donc des antécédents donc de second degré. Mm-hmm. Mais le plus souvent, c'est le conseil qu'on demande, les antécédents donc de premier degré, c'est soit le parent, le frère, la sœur, voilà, c'est ça donc des prédispositions donc au premier degré.
D'accord, Madame Issouf Rehila. Membre de l'association FABA. D'accord. Quelle est la date de création de l'association FABA?
L'association FABA a été créée il y a 2 ans de cela maintenant.
Mm-hmm. Quelle contribution est-ce qu'elle apporte dans la lutte contre le cancer?
La sensibilisation. Aider les malades à vivre, à comprendre la maladie et à vivre avec cette maladie. Mm-hmm. et sensibiliser aussi dans le centre. Dans le centre, il y a une case d'écoute, il y a aussi des sensibilisations qui se font dans le centre chaque matin. Le centre est situé au niveau de la maternité centrale et individuellement aussi l'association contacte des gens, sensibilise à travers des groupes WhatsApp, à travers des contacts, des sensibilisations afin que les femmes puissent comprendre et accepter et vivre avec la maladie.
D'accord. Quelles sont les différentes thématiques que vous abordez dans le cadre de la sensibilisation sur la maladie?
Oui, nous leur parlons surtout d'abord du dépistage si elles ne sont pas dépistées. Nous faisons des sensibilisations pour amener les femmes à aller vers des centres de santé, se dépister. Et pour les femmes qui sont déjà diagnostiquées, déjà pour ces femmes-là, on les encourage à suivre le traitement, à continuer le traitement, parce que le traitement est vraiment difficile et pénible et surtout aussi financièrement aussi, ça pèse. Donc, on encourage les femmes à aller vers les médecins, à suivre le traitement. La chimiothérapie est une période vraiment très, très, très difficile. Il faut seulement ceux qui l'ont vécu, qui peuvent parler à ceux qui sont sur le chemin en train de faire la chimio ou qui veulent aller faire la chimio. Mm-hmm. Donc, nous les encourageons, nous leur donnons notre exemple et on les suit de près, ceux que nous avons leur contact, nous les suivons de près. Nous avons leur programme à chaque fois que... Parce que la chimio se fait chaque 3 semaines. Après la chimio, on continue à les appeler, à savoir comment elles vont, à leur rendre visite. Et aussi à d'autres, il y a des femmes malades qui refusent le traitement. D'accord. Après une séance, elles ne viennent plus. Donc on va vers ces femmes. On les appelle, on les encourage à venir, on leur donne notre exemple.
D'accord, vous dites que le traitement c'est assez coûteux. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir les traitements, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous intervenez aussi dans ce cas?
Oui, nous avons eu un cas. Mm-hmm. Oui, nous avons eu un cas récemment et une femme qui est dans l'association qui nous a dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut plus venir au centre et on l'a demandé pourquoi tu ne peux pas venir et elle nous a expliqué que vraiment elle n'a pas les moyens, ses enfants n'ont pas les moyens et puis ils ont tout fait, elles sont tellement endettées pour le traitement qu'elle maintenant, elle n'attend que la mort. Et là nous avons contacté la présidente de l'association, les membres de l'association et aussi au centre, nous avons contacté et elle a été aidée.
D'accord.
Et elle continue actuellement son traitement.
Mmh. Avant de continuer, je vous propose de suivre des témoignages des femmes recueillies sur cette thématique.
Non, je ne savais pas qu'on pouvait être prédisposé à avoir le cancer.
Oh. Wallahi, moi, je n'ai jamais su que le cancer peut être héréditaire. Donc, c'est la première fois que j'entends ça.
Si je savais qu'on pouvait être prédisposé à avoir le cancer, je ne le savais vraiment pas.
Personnellement, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait être prédisposé à avoir le cancer.
Oui, effectivement. Effectivement, je suis bien et bien au courant qu'on est prédisposé à avoir le cancer. Oui, mais pas tout cancer. Mais pas tout cancer, vraiment. Il y a certains cancers qui sont héréditaires. Oui.
Bien sûr qu'on peut être prédisposé à avoir le cancer, surtout dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement.
Plus je savais qu'on pouvait hériter du cancer et être prédisposé à l'avoir.
Aja Fati, avant votre maladie, est-ce que vous savez qu'on pouvait être prédisposé au cancer?
Oui, moi, comme étant héréditaire.
Vous saviez déjà qu'il y avait une probabilité?
Oui, moi je sais dans ma tête que chaque fois, je l'ai en tête, que je peux être aussi victime du cancer.
D'accord. Docteur, vous avez écouté les témoignages. Que pensez-vous qui doit être fait pour que les gens se rendent compte qu'on peut être prédisposé au cancer et prendre les dispositions? Parce que là, d'après les témoignages, beaucoup ne sont pas au courant.
pour faire la nuance entre prédisposer au cancer et être héréditaire, avoir une héréditaire au cancer, c'est deux. Le cancer, la prédisposition, tout le monde est prédisposé à faire un cancer. On parle de cancer héréditaire, c'est-à-dire, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'hériter des gènes qui peuvent, des gènes mutés qui peuvent être responsables de cancer.
Comme Mme Hajia Fati.
Voilà. Mm-hmm. C'est pour dire que c'est une maladie complexe et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut dire, voilà aujourd'hui, la cause de ces cancers.
D'accord.
Dans une famille, on peut, plusieurs personnes dans une famille, donc ce n'est pas tout le monde qui développe donc, le cancer.
Mm-hmm.
D'autres le font et d'autres ne le font pas. Mais pourtant, des individus ont reçu donc, les mêmes patrimoines génétiques et du père et de la mère.
Selon les statistiques de 2021 du registre du cancer du Niger, chaque année, 391 nouveaux cas de cancer sont officiellement enregistrés. Les plus fréquents sont le cancer du sein avec 20%, celui du col de l'utérus avec 9% et celui de la prostate 9% aussi. Est-ce qu'on peut dire que les victimes sont forcément prédisposées à cette maladie? Expliquez-nous davantage ce phénomène, docteur.
Il y a effectivement, chaque année, c'est, au lieu, mais c'est même pas 320, c'est 622 cas, c'est donc les nouveaux chiffres. Parce que je viens donc de communiquer sur ça hier seulement.
622.
C'est ça, 622 nouveaux
cas. Cette année,
oui,
en 2022.
Voilà.
D'accord.
Voilà. C'est nouveau. Donc, il faut dire que le phénomène est en train donc d'augmenter. Il n'est pas, c'est pas que tous ces cancers-là qui ont donc une prédisposition donc, génétique. Ce que nous avons remarqué, même quand on regarde, même en tout cas au cours de nos consultations de routine, même quand on demande par rapport donc, aux 80% même donc, des malades qu'on reçoit, donc, quand on essaie donc, de fouiller dans les antécédents, c'est des malades qui n'ont pas un antécédent, qui n'ont pas un antécédent de cancer donc, dans leur famille.
Mm-hmm.
Donc on ne saurait dire que réellement que c'est une prédisposition donc à génétique donc chez tous ces malades-là.
D'accord. Madame Raghilatou. Oui, oui. À travers vos échanges avec le public, est-ce que les personnes vous posent des questions sur la prédisposition à la maladie?
Oui. Mm-hmm. Sur la prédisposition à la maladie, moi, par exemple, je n'ai pas hérité le cancer. Dans ma famille, il n'y a pas eu de cancer. Je suis la première.
Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous leur dites?
Oui, je leur explique ça. Je leur explique, il y a les deux possibilités. On peut hériter, tout comme on peut ne pas l'hériter. Par exemple, Hajia Fati, sa maman était victime du cancer. Donc, on peut dire qu'elle l'a hérité, mais moi, je n'ai pas hérité.
D'abord, donc, il y a des facteurs donc, héréditaires, ceux qui héritent donc, des gènes responsables donc, du cancer. Il y a ceux qui sont soumis à certains facteurs donc, de risque, dans certaines zones. C'est un exemple donc du cancer donc du col. Ça, bien ceux qui par exemple sont immunodéprimés ont plus de chances de développer par exemple le cancer du col que ceux qui ne l'ont pas.
Mm-hmm.
Ce sont donc des facteurs de risque parce que il faut faire donc la nuance. Être prédisposé et être aidé, c'est pas la même chose.
Avant de continuer, je vous propose aussi de suivre le portrait de Mme Fatima Abdou Sambo, la responsable du Centre d'écoute et d'échange sur le cancer.
Née en 1954 et mère de 4 enfants, Mme Fatima Abdou Sambo est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des travaux en biologie obtenu à l'Université de Lomé. Elle a une longue expérience professionnelle à l'Office national de produits pharmaceutiques et chimiques de 1975 à 1984 et au Laboratoire national de la santé publique et d'expertise de 1985 à 2012. En 2011, suite à un diagnostic qui s'est révélé positif, Madame Fatima emprunte le long chemin de lutte contre les cancers. Elle nous raconte.
Ça n'a pas été facile. Comme je le disais, c'est un traitement long et accablant. Il faut vraiment avoir le courage de l'affronter. Par la grâce de Dieu, par les soins et par les prières, parce que moi, je n'oublie pas les prières, même en tant que malade, J'ai prié beaucoup. Dieu a pu entendre ma voix et j'ai pu avoir la santé. J'ai pu vaincre cette maladie et je l'ai affrontée pendant 7 ans. 7 ans, je faisais des va-et-vient. Je faisais des va-et-vient. Vous savez, quand vous finissez le traitement, on vous dit de venir tous les 3 mois. Ensuite, on vous demande de venir tous les 6 mois au contrôle. Ensuite, on vous dit de venir tous les ans. Ce n'est qu'après 10 ans qu'on peut dire que celle-là n'a plus de cancer. Donc, après 10 ans, on est en rémission totale ou complète. Et en ce moment-là, on peut dire que je touche du bois, on peut dire qu'on est guéri.
Après plusieurs années de lutte contre les cancers, Madame Fatima Abdou Sambo a ouvert un centre d'écoute et d'échange sur la maladie en février 2022.
À travers ma maladie, j'ai eu l'expérience à l'extérieur du pays où je me suis soignée. J'ai pu remarquer le centre qui m'a beaucoup aidée dans mes soins parce qu'ils se disent que sans ce centre-là, on ne peut pas avoir le moral et avoir la force de poursuivre ses soins. Parce que vous savez, c'est une maladie qui est très lourde et il faut un espace qui pourra aider le malade à surmonter tout ce que la maladie renferme. Et je me suis adressée à l'OMS avec des arguments valables, des arguments convaincants, et ils ont accepté de faire ce centre au sein du Centre national de lutte contre le cancer. Donc ici, on soigne le cancer et à travers ce centre, il y a un centre d'écoute. Quand tu viens, on dit que tu as le cancer. Pour tout le monde, c'est la fin du monde. Ils voient tout de suite la tombe. Et notre objectif ici, dans ce centre-là, c'est aider les malades à comprendre d'abord leur maladie et aider les malades à suivre leur traitement aussi. Aussi aider les malades à travers leur traitement, leur alimentation. On fait des séances de sensibilisation. On a nos communicatrices, on a un psychologue, il y a des assistantes qui nous aident. Et chaque fois, les nouveaux malades, ils passent ici pour les briefer un peu sur leur maladie. Et pendant le traitement aussi, ils passent ici où on va les trouver, où ils viennent nous trouver ici pour qu'on leur explique ce qu'il y a de la maladie. Et ensuite, nous avons des séances de sensibilisation, des séances de documentaires là, et des films qu'on réalise, d'aider les patients et leur famille à mieux comprendre la maladie et la prise en charge. Ce centre-là, c'est là où malades comme bien portants peuvent se réunir et discuter. À travers les malades, nous avons les accompagnants des malades qu'on reçoit. Parce que si tu as un malade avec toi, le fils, tu viens avec ton accompagnant. Lui, il n'est pas malade, mais il vient quand même écouter.
Rahamo Abdou, communicatrice au centre d'écoute et d'échange, apprécie le courage de Madame Fatima Sambo.
Hajia Fatima est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est une femme battante. Lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie, elle l'a acceptée sans grande difficulté, jusqu'à avoir l'idée de créer ce centre d'écoute et d'échange, où les malades peuvent être écoutés et sensibilisés sur la maladie. Beaucoup ont compris c'est quoi la maladie, l'ont acceptée et ont accepté de se faire soigner. Beaucoup finissent par retrouver la santé. On ne peut que la remercier. C'est notre aînée, c'est notre grande sœur. Nous travaillons en parfaite harmonie avec elle.
Je souhaite du fond du cœur à toutes mes sœurs malades du cancer cette chance que j'ai eue pour la guérison, a déclaré Madame Fatima Abdou Sambo. Elle lance un appel à la population d'aller se faire dépister, car plus la personne se dépiste à temps, mieux elle est soignée.
Voilà, Madame Ali, qu'est-ce que vous pensez de Hajia Fatima?
Hajia Fatima, oui. C'est une collègue, donc même hier j'étais avec elle et je sais que le centre d'écoute là aide beaucoup les femmes. Ça nous a beaucoup aidé à enlever le stress et encore sensibiliser les gens à venir faire le dépistage, prendre la maladie comme toutes les maladies et encore sensibiliser les gens qui commencent le traitement et qui partent s'asseoir. Vous voyez, c'est là le danger. On doit prendre ça à temps et encore, on doit finir le traitement. Le traitement, il est vrai, le traitement est long et encore coûteux. Mais les produits chers, c'est l'État qui prend ça à charge. L'État fait de son mieux, mais vraiment, qu'il continue de... Parce qu'il y a la chimiothérapie qui est gratuite. Ça fait 1 an qu'on a amené la radiothérapie. Donc avant, pour finir le traitement, pour faire la radiothérapie, il faut une évacuation. Et vous savez, l'évacuation aussi, comme la maladie là, ça atteint maintenant beaucoup de gens. Donc on ne peut pas évacuer tout le monde. Mais l'État fait de son mieux pour évacuer quelques-uns. Et maintenant, ils ont fait amener la radiothérapie. Mmh.
Il reste le scanner. D'accord. Un appareil scanner qu'on veut pour pouvoir finir avec tout pour
c'est
les contrôles.
Que vous lancez.
C'est un appel.
Vous aurez le temps de lancer le appel. Docteur Amadou, que pensez-vous du travail de Hajia Fatima Sambo?
C'est vraiment un travail formidable et qui est en train d'être fait. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va faciliter nous, notre travail, le travail donc des cliniciens. Parce que un malade qui est atteint du cancer, comme il a dit, on annonce le annoncer un cancer à quelqu'un, c'est comme si tu lui fais tomber la tête, le ciel là-dessus. Donc, nous n'avons pas toujours les mêmes approches. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, en langue, médecin, tu viens, tu trouves 30 malades donc, qui doivent être consultés. Tu dois consulter donc, de midi à 14h, 16h, 17h. Normalement, un malade cancer, il faut leur consacrer du temps. Pour faire une bonne consultation, il faut au minimum consacrer au moins 15 minutes à un malade. Et il faut le dire, nous n'avons pas ce temps-là.
Mais comment faire pour que vous puissiez avoir ce temps, docteur?
Pour avoir ce temps, c'est qu'il faut limiter le nombre de consultations. Le nombre de patients par consultation. Parlons donc de mon cas. Moi, je suis chirurgien cancéreux. Il me faut consulter. Il me faut opérer les malades. Il me faut revoir les malades qu'on a opérés. Imaginez la charge de travail. Pendant la consultation, il faut prendre le temps pour expliquer aux malades leur maladie, le circuit qu'ils doivent suivre. Parce que c'est ça aussi un problème. Surtout, c'est ça aussi responsable même d'un certain retard. Un malade qui vient, qui ne comprend pas, qui comprend le français, qui ne sait pas, va faire donc une analyse pour le diagnostic, va faire une analyse pour voir le degré d'atteinte, le degré d'extension de la maladie. Après, il faut aller faire... C'est un circuit. Le malade cancer a un circuit à faire. Et des fois, c'est le clinicien qui doit expliquer tout ça au malade. Et s'il faut prendre tout ce temps-là, on ne peut pas avoir plus, normalement, plus donc de 10 malades, alors qu'il y a plus de 30 malades.
Voilà,
donc,
justement.
Ce qui fait que le travail que Saja, Ramou, je sais pas, Fatima Sambo est en train de faire, nous, ça nous facilite notre travail parce que, même comme je l'ai dit, même l'approche, parce qu'il faut dans une équipe, parce que quand on parle de cancer, on ne doit pas parler donc d'un seul. Si on dit cancer, c'est une équipe qu'on doit avoir. Et dans cette équipe-là, il doit avoir donc toutes les spécialités. Mm-hmm. Mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas ça.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Mme Rahilatou sur Hajia Sambo?
Hajia Sambo, c'est une grande sœur. On travaille ensemble.
Sur son travail?
Sur son travail, oui. C'est une grande sœur sur son travail, vraiment. C'est à encourager. Mm-hmm. C'est à encourager. Parce que moi, avant même de la connaître et avant même d'avoir le centre d'écoute là, ma gynéco qui m'a suivi, elle m'avait offert le livre écrit par Hajia Amina et Hajia Fatima Sambo. Elle avait d'abord écrit un livre sur le parcours de sa maladie, sur son traitement, comment elle l'a supporté, comment elle l'a vécu. Et
quel est le nom du livre?
Vivre avec le cancer.
Pour ceux qui veulent s'informer.
Comment vivre avec le cancer.
D'accord.
Et comme ma gynéco a eu le livre, elle l'a lu, elle a vu que c'est la même chose parce que même le traitement que moi j'ai suivi, c'est la même chose que Fatima aussi a suivi. Elle a eu la chance de faire l'herceptine. Moi, on me l'a demandé, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir ce traitement-là. Elle l'a eu. Donc, quand ma gynéco a lu le livre, elle a trouvé que c'est intéressant et que ça me ressemble beaucoup. Elle m'a appelée, elle m'a dit, j'ai un cadeau pour toi. J'étais venue en précipitamment, là, je me demandais quel était le cadeau que le docteur veut me donner. Elle m'a remis le livre. J'ai lu le livre, j'ai vu que vraiment, c'est moi. C'est après maintenant que j'ai fait la connaissance de Fatima.
D'accord.
On travaille ensemble. Vraiment, c'est à encourager.
Mm-hmm. Madame Ali, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont cette maladie?
Oui.
Combien de personnes?
En tout cas, dans ma famille, pour le moment, il y a ma grande sœur aînée. Notre grande sœur aînée, elle est décédée, mais avec une boule dans son sein. Oui. Et sa fille, sa propre fille encore, elle est atteinte de cette maladie. Ça fait 3 ans qu'elle a aussi qu'elle s'est fait traiter. Donc, ça veut dire que pour moi...
Votre cas, docteur, c'est le cancer héréditaire. Ce n'est pas la prédisposition au cancer. C'est
héréditaire.
D'accord. C'est compris maintenant.
Cancer, donc, ce qu'on appelle un cancer familial. Notion de cancer familial.
Parce que c'était un peu confus pour moi au début, mais avec vos explications, maintenant, j'ai bien assimilé. Donc, Madame Ali, c'est un cancer héréditaire. D'accord, c'est bien noté. Docteur, quelles sont les suppositions et vos propositions pour une meilleure communication sur la prédisposition au cancer? Parce que le thème aujourd'hui, c'est la prédisposition au cancer.
D'abord, il faut se dépister. Pour les cancers donc, du sein, normalement, s'il n'y a pas de prédisposition familiale, déjà à 30 ans, une femme doit avoir donc sa première mammographie. À 30 ans déjà, s'il n'y a pas de prédisposition au cancer. Mais s'il y a des prédispositions dès l'âge donc de 25 ans, on peut commencer à faire les dépistages. 20-25 ans, pour ceux qui ont des familles de 20 ans. C'est la même chose pour les cancers donc, du côlon et du rectum dont je parle. Pour ceux qui n'ont pas donc, de prédisposition, à partir donc, de 40 ans, il faut déjà commencer à faire ce qu'on appelle la colonoscopie. Mais pour des famille où la prédisposition à faire un cancer est là, il faut faire ce dépistage-là à un âge très jeune. Donc, comme je l'ai dit, je reviens, c'est le dépistage. Je l'ai dit, pour ceux qui ont donc des prédispositions, ils doivent le faire à un âge un peu plus jeune. Dès l'âge donc de 20 ans, pour ceux qui ont donc des prédispositions donc au cancer du sein, ils doivent faire donc leur première mammographie. Pour ceux qui ont un cancer donc, du côlon aussi, donc, dès l'âge donc, de 20-25 ans, doivent commencer à faire donc, la colonoscopie. Mais avant ça, il faut surveiller. Faire le palpé pour les seins, c'est-à-dire vraiment connaître son fer, donc les palpés donc, chaque matin. Pour les cancers colorectaux, faire attention quand on part donc, à faire ses besoins, de regarder s'il n'y a pas une goutte de sang dans les selles. C'est ça donc les signes annonciateurs.
Du cancer
du cancer du côlon et du rectum. Voir s'il n'y a pas donc de gouttes de sang. Si on voit des gouttes de sang dans les selles, il faut consulter. Parce que ce n'est pas normal. Je ne dis pas que forcément c'est le cancer. Mais il faut écarter le cancer. Il faut faire tout pour écarter donc le cancer. Parce que ce sont les premiers signes. En parlant des cancers donc, du côlon et du rectum, vous allez voir que ça fait 2-3 ans que moi, je vois donc du sang dans les selles, mais ça ne m'a jamais alarmé. Mais il a fallu que je commence à maigrir, il a fallu que je commence à avoir donc, des problèmes donc, de digestion, d'inconfort abdominal pour venir à l'hôpital.
D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est aussi les signes de l'hémorroïde, comment faire la différence?
Justement,
oui.
Dès qu'on voit les signes de l'hémorroïde, c'est d'abord le saignement. Si on voit ça, il faut consulter un spécialiste. Parce que la gravité, c'est que le plus souvent, on traite le plus souvent les malades pour les hémorroïdes, alors que c'est un cancer. Donc, même pour dire que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est le dépistage pour tous les cancers. Il y a des cancers pour lesquels le dépistage est facile. Il y a des cancers pour lesquels on ne peut pas dire qu'on peut dépister. Il faut avoir des signes. Les organes les plus accessibles, le cancer du col, le dépistage est facile. Le cancer du sein, le dépistage est facile. Le cancer du côlon et du rectum, je dis, s'il y a des prédispositions, il faut faire une colonoscopie de manière régulière ou bien rechercher les sangs, la présence du sang dans les selles. Ça se fait. Pour le cancer donc, de la prostate, à partir donc, d'un certain âge, il y a un examen qu'on appelle donc, le PSA, il faut le faire.
D'accord. Donc, en bref, vous suggérez tout simplement de faire un dépistage.
Un dépistage.
D'accord.
À partir d'un certain âge, pour certains types de cancers. Voilà.
Et vous, Madame Rahilatou, quelles sont vos suppositions et vos propositions sur une meilleure communication de la maladie, de la prédisposition au cancer?
C'est comme le docteur vient de le dire, c'est le dépistage.
D'accord.
Il faut d'abord faire le dépistage pour tout, c'est le commencement. Parce que sans le dépistage, ça va pas être facile et ça va compliquer. D'accord. Parce que le cancer pris très tôt, on a toutes les chances de guérir. Mais quand on le prend tardivement, c'est difficile.
D'accord. Et chez vous, Madame Ali?
Donc, salam alaikum. C'est comme l'a dit le docteur et ma collègue Rahina.
D'accord.
C'est de prendre ça à temps.
Le dépistage.
Mm-hmm. Oui.
D'accord. Mais il faudra aussi, docteur, vous avez dit quelques facteurs. Il faudra aussi éviter les facteurs que vous nous avez.
Je voudrais bien parler donc de ces facteurs.
Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il y a un changement vraiment donc de paradigme, comme on le dit. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'entame de mes propos. Nous, le cancer actuellement, en tout cas, en Afrique et surtout donc la population noire est en train d'être diagnostiquée à un âge jeune. Ça veut dire qu'il y a donc un changement de comportement. Mm-hmm. Un changement de comportement, d'abord, c'est d'abord le facteur, nos modes de vie. Notre mode de vie a changé. Avant, jadis, quand on disait, on pensait que le cancer et même avoir l'hypertension artérielle, on disait que ce sont les maladies donc les blancs. Mais aujourd'hui, que ce soit donc les maladies cardiovasculaires, que ce soit donc le cancer, sont en train de devenir donc des maladies
des pauvres.
Et ça, c'est parce que il y a eu donc un changement donc de comportement. Et aujourd'hui, certains types de cancers sont plus fréquents dans les populations à un niveau de vie un peu plus élevé, parce que on a épousé donc un mode de vie occidental. Notre alimentation a changé, notre mode de vie a changé, c'est-à-dire aujourd'hui on est très très sédentaire. La sédentarité, on ne bouge pas, on ne fait pas d'activité donc physique. Aujourd'hui notre alimentation a changé. Comme moi j'ai l'habitude donc de dire ça à mes patients, aujourd'hui quand on regarde donc dans notre assiette, 99% de ce que nous mangeons, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Aujourd'hui, imaginez, c'est le riz qui est l'aliment de base du Niger et du Nigérien. Aujourd'hui, le riz, on ne sait même pas ce qu'on mange. Aujourd'hui, quand on part sur nos étalages, donc des supermarchés, il y a tellement de jus qui vient de n'importe où. Il y a tellement de ce qu'on appelle donc les mayonnaises. Là, on sait même, chacun part dans un petit truc, fabriquer sa mayonnaise et mettre son nom là-dessus. C'est... Aujourd'hui, les trucs donc de arôme machin, il y a du, on consomme beaucoup de choses. Excusez-moi du terme.
On consomme le cancer.
Voilà. Aujourd'hui, le sucre, malheureusement, est en train de faire manger à nos enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants n'aiment que ce qui est sucré. Aujourd'hui, on va voir donc des chocolats, des friandises. On ne sait même pas où c'est passé. Et aujourd'hui, dès qu'on est, on pense que c'est la bonne vie d'amener son enfant dans un supermarché, lui faire payer donc tout ce qui est sucrerie, vous amener à la maison. Alors, et on s'étonne qu'à 20 ans, que cet enfant-là n'arrive pas à marcher, que cet enfant-là développe une obésité responsable de cancer. C'est ça. Il faut qu'on change de mode de vie. Il faut qu'on revienne donc à nos propres valeurs, qu'on consomme ce que nous savons. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses que nous pouvons consommer. L'exemple donc du moringa est là. Aujourd'hui, c'est qu'il y a pas, si le moringa est même en train d'être cultivé, consommé même en Europe, mm-hmm. alors que nous sommes en train de tourner le dos à ça.
C'est ça. D'accord.
Donc, il faut que nous revenions. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Ici prend fin ce forum sur le thème « Femmes et prédispositions au cancer, comment s'y prendre ?» Nous étions en compagnie de Dr Amadou Soumeila, chirurgien cancérologue à l'hôpital national de Niamey, en compagnie de Mme Issoufou Rahila, assistante administrative, et enfin de Hajia Fatih Ali, présidente de l'association des femmes qui souffrent du cancer au Niger. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous mardi prochain pour un autre débat Espace Femmes du studio Kalangou. Merci et au revoir.
Affairage.
Bon, le travail est fini, je peux rentrer tranquillement à la maison, me reposer. La journée sera longue demain. Sahura, Safura, va me réveiller ta petite sœur, on va partir.
Tanti, elle dort encore, j'ai tout fait pour la réveiller en vain.
Ah ah ah, comment ça? Maria, tout, elle dort profondément, hein? Bon, je vais la mettre au dos, elle se réveillera à la maison. On y va.
Maman, t'as tu rentres déjà?
Oui, je suis trop fatiguée. À demain pour les baptins.
Maria dort encore. Depuis que vous êtes arrivée, elle ne fait que dormir. J'espère qu'elle va bien.
Oui, elle se porte bien. Je lui ai donné un somnifère pour que je puisse aider dans les préparatifs du baptême de demain. Sinon, elle va me déranger. Mais je crois que j'ai un peu abusé sur la dose.
Quoi? Tu donnes des somnifères à ta fille pour qu'elle ne te dérange pas? Et pourquoi tu l'as accouchée? Tu vas détruire la vie de ton enfant pour rien.
Détruire sa vie? Juste en la faisant dormir? Pourtant, le sommeil est bon pour la santé. Je ne vois pas en quoi je lui ai fait du mal.
Tu me fais rire, hein? Tu ne vois pas en quoi tu lui fais du mal. Tu ne sais pas que c'est juste quand une personne a un trouble de sommeil qu'elle peut prendre des somnifères? Est-ce que c'est le cas de ta fille?
Non, elle dort normalement quand il le faut. En fait, je lui donne ça quand je vais dans des rassemblements. La nuit, je n'ai pas de problème avec elle.
C'est grave ce que tu fais. Ce sont généralement des enfants qui pleurent la nuit ou ne dorment pas tôt, empêchant la famille de se reposer à qui on donne des somnifères. L'usage des somnifères n'est pas sans conséquence sur la santé. L'administration des somnifères est fortement contre-indiquée avant l'âge de 1 an, alors que ta fille n'a que 6 mois. En plus, ça doit être préconisé par un médecin.
En tout cas, jusqu'à présent, elle n'a eu aucun mal avec ça.
La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais à long terme, les risques sont nombreux. Une consommation régulière de somnifères, surtout chez les enfants, est accompagnée d'un certain nombre de risques qui l'emportent probablement sur les avantages.
Hé, Halima, en fait, je lui donne ça seulement quand on sort. Donc, ce n'est pas beaucoup.
Seulement quand on sort, ce n'est pas beaucoup. Tu m'énerves, hein?
Halima!
En plus, tu ris. Tu ne sais pas que l'intention régulière et à long terme des somnifères a un certain effet secondaire potentiellement grave sur la vigilance, l'apprentissage et la mémoire? À court terme, l'utilisation des somnifères provoque une baisse de la concentration et de la vitesse de réaction. Et à long terme, des maux de tête, fatigue, vision trouble, sensation de somnolence ou de vide, faiblesse et fatigue musculaire, vertige, etc. Et j'en passe.
Tout ça là, c'est trop. Tu es sûre de ce que tu me dis?
Tu oublies que je suis dans le domaine de la santé?
Vraiment, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter.
C'est dans ton intérêt en tout cas. Écoute-moi, certaines adaptations peuvent résoudre ton problème. Si tu veux que ton enfant dorme, mets-le dans un endroit calme, détendu et relaxant avant. Chez certains, prendre un bain s'avère bénéfique. C'est mieux que de lui donner des somnifères.
J'ai bien compris, Halima. Tu vois, Maria dort toujours. Et avec tout ce que tu viens de me dire, je suis inquiète. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter que le problème va commencer.
Non, je pense que ça ira. Ne t'inquiète pas. Mais il ne faut plus recommencer. Surtout pour des futilités comme ça. Du genre, non, je ne veux pas qu'elle me dérange.
Inch'Allah, je te promets, Halima.